Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de la série de discussions que nous commençons aujourd'hui. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Yann s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci pour votre invitation Yann et bonjour à tous.
André, nous entamons aujourd'hui une longue série sur la notion biblique que le chrétien est enfant de Dieu. Pour commencer, pouvez-vous nous dire pourquoi ce thème est si important et pertinent?
Bien sûr, mais pour souligner l'importance de ce thème, il est nécessaire de nous poser la question suivante. Quelle est l'image que nous nous faisons de Dieu? En fait, c'est notre réponse à cette question qui va déterminer la manière dont nous concevons notre relation avec lui. Par exemple, croyons-nous que Dieu est un tyran redoutable, un genre de dictateur céleste? Si nous lui obéissons alors, notre soumission sera motivée par la peur. Or, cette attitude-là n'engendrera qu'amertume ou rébellion. Si par contre nous acceptons cette vérité que Dieu est notre Père, un Père parfait et merveilleux, alors notre obéissance dans ce cas se fera dans la confiance et l'amour.
Merci André. Mais existe-t-il des textes bibliques abordant ce problème?
Oui, je pense à Galates chapitre 4, versets 4 à 9. Écoutons donc cet extrait de la Bible.
Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il envoyait son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves, des divinités qui en réalité ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves?
André, expliquez-nous le sens de ces versets.
L'apôtre Paul, l'auteur de ces versets, compare la condition de l'esclave avec celle de l'enfant issu d'une famille privilégiée. Or, par là même, il nous demande de considérer laquelle de ces deux situations nous préférons.
Je pense que toute personne sensée préférerait être l'enfant. La condition d'un esclave n'est guère à envier. Mais quel est le sens de tout cela sur le plan spirituel?
Paul insiste sur le fait que tous ceux et celles qui connaissent par la foi le Seigneur Jésus sont devenus enfants de Dieu. Toutefois, il explique que tous ceux qui ne connaissent pas l'Éternel demeurent dans l'esclavage. Il évoque aussi le danger qui guette tout chrétien s'il n'y prend garde. Il peut agir comme s'il était toujours un esclave et ne peut pas vivre en enfant libre. Il perd ainsi de vue que Dieu, dans sa grâce, a fait de lui son enfant.
André, vous affirmez que ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent dans l'esclavage. Cela pourrait choquer certains. De qui ou de quoi pourrait-on être esclave?
Paul évoque plusieurs éléments pouvant nous faire tomber dans l'esclavage. Tout d'abord, une religion légaliste. Toute religion qui ne consiste qu'en devoirs, en obligations, en lois et en règlements devient un esclavage. Revenons à l'idée du Dieu tyrannique et inquiétant qui n'envoie qu'ordre et menace. les légalistes s'efforcent de remplir au mieux toutes sortes de devoirs et d'obligations sans jamais posséder l'assurance d'en faire assez. Surmenés, ils sombrent dans la crainte et sous le poids pesant de la culpabilité.
L'esclavage est l'expression d'une obéissance aveugle et craintive, n'offrant ni joie ni espoir. Mais c'est aussi ainsi que vous avez décrit le légalisme.
Oui. Ensuite, Paul évoque les faux dieux ou ce qu'il appelle les principes élémentaires. Nous pouvons à ce sujet mentionner l'idolâtrie, la superstition ou tout recours aux pratiques occultes qui tiennent les gens dans l'esclavage et la peur. La peur d'offenser des soi-disant esprits, la peur de subir des sorts ou l'appréhension d'endurer des malheurs. Ces peurs maintiennent certains dans l'esclavage de croyances et de pratiques malheureusement dangereuses et destructrices. Nous pouvons aussi affirmer que le monde vit sous l'influence d'idées mensongères, influençant les gens et les rendant esclaves du péché.
Pouvez-vous expliquer cela et nous donner des exemples ?
Le monde veut nous imposer l'idée que, pour réussir dans la vie, pour obtenir le bonheur, il nous faut souscrire à certaines conditions. Or, souvent la poursuite de certains de ces objectifs peut impliquer la pratique de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pris dans un engrenage de péché, il devient alors difficile d'y échapper. C'est pourquoi nous parlons d'esclavage. Un esclave ne peut pas échapper à sa condition à moins d'en être libéré. Mais je veux illustrer ces explications par quelques exemples.
Merci André, je pense que cela nous aiderait.
Certains ont vécu que la réussite et le bonheur seraient possibles s'ils détenaient le pouvoir, poursuivent de façon immodérée leur ambition jusqu'à user de corruption et de toutes sortes d'abus. D'autres, croyant trouver le bonheur en s'épanouissant dans leur vie sexuelle, sont encouragés à pratiquer l'adultère. Ils détruisent par là même des familles et répandent la souffrance. Certains pensent aussi fuir leurs problèmes et vivre des moments d'extase en consommant de l'alcool ou diverses drogues, et ils en deviennent rapidement les esclaves. Je pourrais multiplier les exemples, mais vous l'avez compris, beaucoup d'idées foisonnent dans le monde. Elles peuvent sembler être attrayantes au premier abord, mais en réalité, ceux qui s'y adonnent tombent invariablement dans le cercle vicieux du péché. Or, malheureusement, une fois pris dans cet engrenage du mal, il devient difficile d'y échapper, difficile d'emprunter une autre voie. Le péché devient le maître de nos vies et nous tient sous son emprise.
Merci André de nous avoir si bien éclairé sur cette question de l'esclavage sur le plan spirituel. Lorsque nous y pensons, cet état est vraiment affreux.
Mais il existe une bonne nouvelle. Un espoir pour tous ceux qui ploient sous les émotions négatives suscitées par cet esclavage. Jésus-Christ peut nous en libérer. Quel bonheur ! Jésus délivre du légalisme, des faux dieux, du péché, et il fait de nous un enfant de l'Éternel. Il suffit tout simplement de se tourner vers lui, de placer notre foi en lui, de croire en son sacrifice sur la croix et en sa résurrection.
Merci André de conclure sur cette note d'espoir, sur le fait qu'il est possible de devenir enfant de Dieu. Nous parlerons davantage de ce que cela signifie et implique la prochaine fois.
Nous commençons dès à présent avec une nouvelle série de courtes méditations bibliques dont le sujet portera sur la personne de Jésus-Christ telle qu'il nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean qui reçut des visions extraordinaires de la part du Seigneur Jésus. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand confrontés à la persécution et à la souffrance. Hélène va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 6. Ensuite, notre invité Jean-Luc nous fera part de quelques réflexions inspirées sur ce texte.
Que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les mots « Jésus-Christ, le témoin fidèle ». Il arrive, malheureusement trop souvent, que des accidents de la circulation aient lieu sur les routes. Ces accidents peuvent être responsables de blessures graves ou de la mort de certains, auquel cas la police et les tribunaux devront déterminer qui sont les responsables. Ils devront se prononcer sur l'origine d'un accident et exercer la justice si une personne a commis un délit grave l'ayant engendré. Cependant, pour déterminer ce qui s'est passé exactement, les tribunaux ont besoin d'entendre le témoignage de personnes ayant vu l'accident se dérouler. Toutefois, pour obtenir des témoignages authentiques, les témoins doivent être dignes de foi. Leurs paroles doivent refléter la vérité. Malheureusement, dans notre monde, où le mal est si présent, il arrive que certains témoins ne disent pas la vérité. De telles attitudes compliquent la tâche des tribunaux. Elles conduisent la justice à se tromper et sème l'injustice. Souvent, dans la vie, nous devons vérifier si ce que l'on nous déclare est vrai. Et cela d'autant plus si le sujet est important, s'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et justement, plusieurs questions devraient nous troubler. Que nous réserve l'avenir? Pourquoi les maux et les malheurs abondent-ils dans le monde? Que va-t-il advenir de nous après la mort? Qui est Dieu et quelle bonne nouvelle a-t-il en réserve pour nous? Comment trouver les réponses à ces questions? Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit Jésus-Christ comme le témoin fidèle, autrement dit, le témoin digne de foi. Jésus-Christ vient vers nous de la part de Dieu. Il connaît Dieu, il a vu Dieu. Il est témoin des prodiges que Dieu accomplit. Nous pouvons avoir foi en ses paroles lorsqu'il nous parle du Dieu éternel. Son témoignage est véritable. De même, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il a vécu ces choses, il a dû passer par elles, il peut en parler comme personne d'autre. Il peut se présenter comme le témoin fidèle. Nous pouvons nous appuyer sur ses paroles. Dans un monde troublant, où nous ne savons pas forcément qui croire, ni vers qui nous tourner, Jésus-Christ vient à nous comme celui qui connaît toutes choses, comme celui qui annonce la vérité. Nous pouvons placer notre foi en lui et croire en ses paroles.
Merci Jean-Luc pour ces paroles empreintes d'espérance. Nous retrouverons nos deux invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.